Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma, réalisée sur Fréquence Protestante par l'association Profil. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Dominique Bénard. Bonjour Dominique.
Bonjour Jacques.
Par Yves Ballanger, bonjour Yves.
Bonjour Jacques.
Et par Jean-Michel Zucker, bonjour Jean-Michel.
Bonjour à tous.
Alors notre émission de juin est encore, va encore être très marquée par le Festival de Cannes, puisque les trois films dont nous allons parler ont été présentés en mai sur la Croisette. Chacun à leur manière d'ailleurs, ils illustrent l'envie de créer et l'engagement de leurs auteurs. Engagement politique pour Stéphane Brisé avec En guerre, ou pour Jafar Panahi, qui lutte pour la liberté des femmes en Iran, mais clame aussi sa liberté de créateur avec Trois visages. Et engagement et alors persévérance aussi pour Terry Gilliam, qui lui a mis 25 ans pour faire son adaptation du livre de Cervantes, Don Quichotte, donc L'homme qui tua Don Quichotte. Alors nous allons commencer par En guerre, le film de Stéphane Brisé. Stéphane Brisé est un réalisateur français qui est né en 1966. Il est d'un milieu assez modeste et après un DUT d'électronique, il a débuté comme technicien à la télévision avant de passer à la réalisation, d'abord par un court-métrage en 1993, puis avec un premier long-métrage, Le Bleu des Villes, en 1999. La notoriété vient vraiment avec Mademoiselle Chambon en 2009, qui reçoit un César de la meilleure adaptation d'une œuvre littéraire. Et il poursuit dans la veine sociétale avec Quelques heures de printemps en 2012, qui s'attaque à la question de l'euthanasie. Puis avec La loi du marché en 2015, qui vaut à Vincent Lindon la palme du meilleur acteur à Cannes. Il fait ensuite une incursion que personnellement j'avais trouvé très réussie dans le film d'époque en costume, avec l'adaptation d'une nouvelle de Maupassant, Une vie, en 2016. Et avec donc En guerre, il revient au film social, toujours avec son complice Vincent Lindon. On pourrait d'ailleurs dire qu'En guerre est un peu une représentation de la lutte collective, là où La loi du marché était plutôt le portrait d'un homme seul, sortant difficilement du chômage. Alors Jean-Michel, qu'en penses-tu ? As-tu trouvé qu'En guerre avait autant de force que La loi du marché ?
Eh bien, pour moi, plus de force même, car bien que très admiratif de la performance de Vincent Lindon dans La loi du marché, homme seul broyé par le système capitaliste, le réalisateur va plus loin avec ce film, qui salutairement, reflété par la violence de son titre, est un véritable cri de colère. En 2016, un sondage révélait que 2/3 des Français, conscients des scandaleuses inégalités sociales et économiques de notre pays, estimaient que la lutte des classes restait une réalité et que si Marx revenait, il penserait que tout est à recommencer. Cette fiction incandescente, parfaitement maîtrisée, où rien n'a été improvisé, est aussi un document d'une vérité aveuglante, un appel au retour de la conscience de classe et à l'unité dans la lutte pour leurs droits sociaux d'ouvriers français menacés de perdre leur emploi.
Oui, mais on est quand même au cinéma. Alors, sur quel scénario s'appuie cet appel à la lutte finale ou à l'unité syndicale?
Eh bien, voici ce dont il s'agit. Malgré un bénéfice record de leur entreprise et de lourds sacrifices financiers de la part des salariés, et au mépris d'un accord de sauvegarde de la viabilité de l'usine préalablement signé par tous les partenaires sociaux, la direction de l'usine Perrin Industrie décide néanmoins, pour maximiser les bénéfices de l'entreprise et les partager entre les actionnaires, la fermeture totale du site français et sa délocalisation en Europe de l'Est. Les 1100 salariés emmenés par leur porte-parole Laurent Amedeo refusent cette décision brutale et vont alors tout tenter pour sauver leur emploi en s'efforçant de recréer un rapport de force, seule solution pour arrêter le recul des droits sociaux et pour reprendre la formule du député insoumis François Ruffin, leur faire peur.
Alors comment le cinéma va-t-il traiter ça ? Va-t-il voler au secours de la lutte des classes ?
Eh bien, dès les premières images tournées caméra à l'épaule, nous sommes immergés dans cette colère et cette souffrance et qui cherchent désespérément une issue dans la grève. Entouré d'authentiques acteurs de la vie sociale, Vincent Lindon et le charismatique Laurent, délégué CGT flamboyant, qui entraîne et guide ses camarades en formulant les raisons de la lutte et résistant aux arguments de ceux qui, se voulant réalistes, vont bientôt inciter les grévistes à un compromis qui gonflerait leur indemnité de départ. Dans un climat haletant de thriller, les péripéties de cette guerre se succèdent. Occupation de l'usine puis du siège du MEDEF, médiation ambiguë du conseiller de l'Élysée, fissuration de l'unité ouvrière face à l'inflexibilité du patron, jusqu'à l'explosion de la violence dont la télé se fera le témoin trop complaisant. C'est cependant dans la fraternité que ces ouvriers vont retrouver la dignité dont les patrons les privent, comme de leur emploi, en invoquant une illusoire perte de compétitivité qui les humilie et cache mal l'avidité des actionnaires pour leurs dividendes. La fluide caméra du cinéaste saisit admirablement au plus près des visages tous les sentiments qui les animent au cours du combat qu'ils mènent pour leur survie, de même que l'euphorie que leur procure leur solidarité.
Ah, je vois que tu es enthousiaste. Yves, est-ce que tu partages cet enthousiasme pour l'aide des classes ou pour le film ?
Je ne parlerai pas d'enthousiasme. Bon, de toute façon, c'est un film qui est tout à fait dans l'air du temps. On ne peut qui ne demande que l'adhésion. C'est peut-être là un peu la limite du film.
Ouais.
Je trouve que... ça rappelle un peu... C'est un film qui rappelle un peu le vieux réalisme socialiste.
Ouais.
Qui laisse peu de place au doute. Le seul personnage que j'aurais aimé voir développer et autres, c'est le personnage justement de Mélanie, la jeune femme, qui avoue à la fin du film avoir eu des doutes.
Ouais.
J'aurais aimé voir ces doutes à l'œuvre. Précisément. Oui, je trouve que c'est un peu trop d'un bloc.
On voit pas beaucoup de doutes, oui.
Dominique, des doutes sur quoi ?
Non, moi j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé intéressant, justement, parce que moi je ne l'ai pas trouvé manichéen. Il expose les raisons ceux des ouvriers, ceux des patrons, enfin même si c'est cynique, hein, bien sûr, mais je dirais que moi je ne l'ai pas trouvé manichéen. Maintenant, la façon de filmer m'a beaucoup plu, cette façon d'être à l'intérieur des négociations, des manifestations, etc. Je trouvais que c'était très intéressant.
Oui, alors moi j'ai un peu quelques réserves, un peu comme Yves. En fait, j'ai deux problèmes avec ce film. Le premier problème, c'est que, avant même de l'avoir vu, je m'imaginais ce que ce serait et que quasiment, je dirais, chaque image était attendue. Donc ça me gêne un peu dans un film de fiction. Et puis, l'autre réserve que j'ai, c'est que finalement, je me suis dit qu'à force de coller, ce qui est en soi une qualité, mais à force de coller à la réalité, le film, finalement... je trouve qu'il se transforme en faux documentaire, parce qu'au fond, c'est des choses qu'on voit, dont on entend parler sans arrêt dans les journaux, à la télévision, etc. Et à un moment, on se dit, mais au fond, le vrai documentaire sur une vraie lutte, sur des vrais ouvriers, a plus de force qu'une fiction arrangée. Enfin, moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai eue dans ce film, mais je reconnais qu'on peut ne pas la partager.
C'est vrai que c'est une limite,
c'est la limite du film.
Mais il faut penser que c'est réellement extrêmement documentaire. Et que la fiction est là pour porter cette documentation de la vie sociale actuelle. Alors, effectivement, tourner un véritable documentaire sur la situation, c'est possible, ça a été fait.
Il y en a eu.
Je pense au très beau film de Denis Garbrand, le grand documentariste français, qui a tourné récemment un film sur la grève dans les hôtels Accor, qui s'appelait « On a grévé ». C'est un très très beau film qui est, alors là, dans la réalité la plus absolue. Donc, cette fiction portée par Vincent Lindon, qui a déjà donné des preuves de sa conviction, est très forte, mais la limite que tu indiques, on la reçoit.
Oui. Bon, par ailleurs, c'est vrai qu'il s'est renouvelé par rapport à la loi du marché dans sa manière de filmer. La caméra est beaucoup plus fluide. Elle est beaucoup plus adaptée à cette lutte, finalement, que la loi du marché où on était sur des plans quasiment statiques. Il y a même quelques trucs alors que j'ai trouvé à la fin un peu répétitifs, qui est donc, quand on prend les mouvements de foule et qu'on ne prend pas le son direct, mais qu'on a une musique derrière ces mouvements de foule. C'est pas mal la première fois. La troisième ou quatrième, on trouve que ça fait un peu cliché. Mais bon, ça a une certaine force quand même.
Oui, c'est vrai que on peut difficilement ne pas attendre ces images, puisqu'il y a quand même un plaidoyer qui sous-tend le cinéaste, et que effectivement il n'y a peut-être pas assez, on ne voit pas assez de contradictions. Il y en a à certains moments, puisqu'il y a justement ceux qui essayent de freiner et d'arrêter cette grève, comme on l'a vu très récemment d'ailleurs avec le ce qui a concerné la SNCF et la rupture de l'unité syndicale. C'est... Je crois que la rupture de l'unité, elle est un vrai problème qui a peut-être pas été abordé complètement dans ce film, c'est vrai.
C'est pas mal fait quand même, cette partie-là.
Oui, c'est
pas mal
fait, j'ai trouvé cette partie-là. On voit très bien cette lutte entre les jusqu'au boutistes, si on peut dire, et puis les raisonnables, qui disent, contentons-nous de ça, c'est déjà pas mal.
Oui,
c'est tout à fait. Je trouve que c'est assez bien fait, oui.
Toujours la discussion qu'on a, effectivement.
Oui, enfin bon, on sait quand même que c'est les jusqu'au boutistes qui sont les meilleurs.
Oui, voilà, enfin, c'est ça qui est gênant. Je suis d'accord. Là, le film est quand même prend un parti. Bon, mais Stéphane Brisé ne renie pas ça, il prend un parti très fort. Alors, nous allons passer à un film complètement différent, qui est L'homme qui tua Don Quichotte, de Terry Gilliam. Alors, s'il y a des films attendus, donc c'en est bien un, puisque Terry Gilliam a mis 25 ans à le faire. Terry Gilliam, c'est un Américain qui est né naturalisé britannique et qui est né en 1940. Il fut d'abord, je pense que beaucoup le connaissent comme ça, un des créateurs et des acteurs de la série TV des Monty Python, qui fut ensuite transposée au cinéma avec Sacré Graal en 1974 et La vie de Brian en 1977. À partir de 1985, il entreprend une carrière de réalisateur autonome avec Brasil, qui connaît un énorme succès. Succès qu'il retrouve avec Le Roi Pêcheur en 1991, dont le thème d'ailleurs préfigure déjà un peu celui de Don Quichotte, et avec L'Armée des Douze Singes en 1995, un film de science-fiction qui fait remonter le héros dans le temps. Encore une prémonition. Alors ces films suivants seront plutôt moins appréciés, peut-être parce qu'il était déjà trop préoccupé par son Don Quichotte. On peut citer quand même L'Imaginarium du Docteur Parnassus en 2009 et Zéro Théorème en 2013. Alors le cinéma de Terry Gilliam est très imaginatif, emprunte souvent au genre fantastique ou de science-fiction, et porte une vision souvent assez noire du monde. Alors Dominique, peut-être peux-tu nous rappeler d'abord sa genèse assez exceptionnelle, parce que mettre 25 ans pour faire un film, c'est quand même pas le cas général, heureusement.
C'est en 1989 que Terry Gilliam a eu l'idée d'adapter le Don Quichotte de Cervantes, et il n'a jamais lâché depuis. Après 10 ans d'écriture, les équipes techniques, producteurs et acteurs, en particulier Jean Rochefort, Johnny Depp, Vanessa Paradis, sont à pied d'œuvre en octobre 2000. Hélas, les catastrophes s'abattent sur le tournage, ciel perturbé par les F-16 américains, pluie diluvienne détruisant décors et matériels, zizanie, et Jean Rochefort, qu'une hernie discale empêchera à tout jamais de reprendre son rôle et de remonter à cheval. Bref, annulation du tournage. Cass Fulton et Louis Pépé, qui suivaient le tournage pour faire un making-of, le transforment en un documentaire devenu culte, Lost in La Mancha, sorti en 2002. Les assureurs remboursent, mais récupèrent images et droits sur le film. Terry Gilliam ne se décourage pas, rachète les droits, et en 2008, puis 2012, puis 2014, nouveaux essais, nouveaux échecs. Enfin, la dernière tentative qui réunit Adam Driver et Jonathan Pryce, cinquième couple d'acteurs pressentis, est la bonne. Début du tournage le 6 mars 2017 en Espagne, passage par le Portugal et fin aux Canaries le 4 juin. Le rêve de Terry Gilliam est enfin réalisé. Quelle énergie et quelle émotion! Le film est projeté en clôture du Festival de Cannes le 19 mai et sort en France. Mais Terry Gilliam est au tribunal en conflit avec Paulo Branco, producteur portugais, qui le 15 juin dernier gagne son procès en appel à Paris et doit recevoir des dommages et intérêts. Est-ce la fin ?
Est-ce la fin ? Et après toutes ces péripéties, le film est-il à la hauteur de nos attentes ?
Je ne sais pas répondre à une telle question. Tout dépend de tes attentes, Jacques. Moi qui garde mon âme d'enfant au cinéma, je suis séduite par toute la liberté et la fantaisie de ce film que j'aime beaucoup. Il offre une histoire pleine de rêves, de folie et d'énergie, assez rare dans le cinéma actuel. En fait, nous suivons Toby, un jeune réalisateur de publicité, cynique, qui revient au hasard d'un tournage, là où, jeune étudiant, il a réalisé avec les moyens du bord et les habitants du village un film inspiré de Cervantes. Et ce tournage a bouleversé la vie du village. Un vieux cordonnier qui jouait Don Quichotte est persuadé d'être toujours Don Quichotte et il entraîne Toby Sancho Panza dans un voyage halluciné mêlant des épisodes de Cervantes réinsérés dans notre époque, moulin à vent et publicité, jantes d'âme et équipes de cinéma, migrants et aubergistes, dans un va-et-vient permanent entre le rêve, la réalité, entre notre époque et celle de la chevalerie et de l'amour courtois, entre Don Quichotte et Terry Gilliam, car comment ne pas reconnaître dans Don Quichotte qui rêve le monde, notre réalisateur qui subit toutes les contraintes du monde moderne et sans cesse tente de les dépasser par ses œuvres.
Ah, il faut dire qu'il est aussi porté par deux acteurs vraiment exceptionnels.
Ah, c'est vrai, tout à fait vrai, Jacques. Adam Driver est parfait dans le rôle écrasant de Toby, cinéaste désabusé, fasciné par ce Don Quichotte qui le transforme en Sancho Panza avant que lui-même finisse par se prendre pour Don Quichotte. Et le merveilleux Jonathan Pryce, un vieillard malicieux, rêveur et chevaleresque, que rien ne peut abattre. Ils sont absolument extraordinaires. On retrouve dans ce film la folie créatrice de Terry Gilliam, sa fantaisie et son imagination, comme dans la scène finale du bûcher au cours d'une fête médiévale dans un château appartenant à un oligarque russe à qui l'argent permet tout. Et comme il est impossible de raconter ce film, il est indispensable d'aller le voir.
Bien entendu. Alors Jean-Michel, tu en penses quoi de ça?
Moi je suis tout à fait sur la même longueur d'onde que Dominique, parce que on est un peu agacé à certains moments quand on regarde ce film, mais le souvenir qu'on en conserve à distance est tout à fait extraordinaire et on a presque envie de le revoir bien qu'on connaisse.
Mais il faut le revoir.
Il faut le revoir bien qu'on connaisse ce déroulement. Alors, il y a une espèce de libération par l'imaginaire dont est coutumier Terry Gilliam et qui là éclate extraordinairement, bien que le point de départ du conte qu'il nous propose est quand même un peu tordu. Il faut bien le reconnaître, tu l'as très bien raconté. Alors pour le positif, il y a la loufoquerie de ce parcours avec essentiellement, comme tu l'as dit aussi, un duo de comédiens fabuleux. On adore Adam Driver, on l'a vu dans le film de Jarmusch récemment avec beaucoup de plaisir. Son titre m'échappe, mais enfin vous voyez...
Patterson.
Voilà. Et on le retrouve ici tout à fait heureux. Pour le négatif, il y a des moments où on a l'impression de retomber, que c'est un petit peu lourd.
Où on est un peu perdu parfois.
On est un petit peu perdu, mais ces deux gars, ce duo est extrêmement sympathique et on lui pardonne beaucoup de choses. Il y a quelque chose aussi qui est extraordinaire, c'est que comme c'est un fou, si on veut, entre guillemets, ce Javier, ce Don Quichotte, celui qui se prend pour Don Quichotte, il se permet une impertinence vis-à-vis de beaucoup de choses et il fait une espèce de critique satirique de notre société qui vaut la peine d'être vue.
Et comme le fait Cervantes dans son livre, c'est ça qui est très intéressant. Yves, tu es aussi enthousiaste.
J'aurais aimé partager l'enthousiasme de tout le monde. J'aurais vraiment aimé, parce que moi je m'attendais... J'avoue que le début m'a beaucoup séduit. Ouais. J'ai été emporté assez vite, justement, sur ce passage entre notre époque et l'époque médiévale. J'ai beaucoup aimé, notamment, il y a une scène qui me reste, moi, une scène très très forte, c'est la scène de l'auberge espagnole avec les musulmans, là, où l'équipe de tournage pense qu'elle est dans un lieu infesté de djihadistes, alors que les musulmans, eux, craignent l'inquisition, d'ailleurs, qui va débarquer. Ça, c'est formidable. Ah, oui. Mais, très vite, j'ai décroché, parce que je pense effectivement qu'il y a une virtuosité, mais une virtuosité qui perd un peu sur le spectateur. Alors peut-être que ceux qui connaissent Don Quichotte, Cervantes, arrivent à s'y retrouver. Bon, j'avoue ne pas l'avoir lu, Et j'avoue qu'à la fin, j'ai un peu décroché. Hein, j'ai un peu décroché, mais je reconnais une virtuosité.
Oui.
Peut-être devrais-je aller le revoir, comme vous l'indiquez.
Pour le coup, c'est un film, effectivement, qui gagne à la deuxième vision. Moi, j'ai été absolument fasciné.
Tu l'as revu ?
J'ai revu, oui. J'ai vu deux fois, oui. Parce que j'ai été fasciné, en fait, par la façon dont le réalisateur a réussi à transposer l'univers de Cervantes. Parce que quand on fait un film... Quand on fait un film à partir d'un livre qui est aussi connu, au fond, il n'y a que deux méthodes classiques. C'est soit on fait un film en costume à l'époque où ça s'est fait, hein, le cran classique, soit on transpose complètement dans la période moderne. Or, lui, il a fait quelque chose qui joue avec les deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à l'époque moderne, mais ça se passe avec des gens qui sont en armure et à l'aide de tas de procédés. Alors, c'est là qu'il perd un peu le spectateur parfois, il faut bien reconnaître. Mais en usant de flashbacks, de rêves, de films dans le film, ou de films dans le film dans le film, il arrive à faire passer presque toutes. Enfin, énormément d'histoires qui sont dans le livre, parce que rien n'est inventé. En fait, toutes les anecdotes sont dans le livre.
L'adaptation,
C'est du grand art. Alors, effectivement, cette virtuosité peut perdre un peu le spectateur de temps en temps.
Quand on connaît bien le livre, on en profite probablement beaucoup plus, Yves.
Oui. C'est vrai que c'est tout à fait intéressant. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, l'humour de Cervantes, quand on lit le livre, est assez proche de l'humour des Montépitons. Donc, on comprend qu'en fait, qu'il y ait cette espèce un peu de... Et cette critique de la société que tu soulignais, eh bien, en fait, elle existe aussi chez Cervantes. Donc, c'est vrai que c'est un film assez intéressant sur le plan cinématographique. Je reconnais qu'on peut s'y perdre, mais il vaut le coup d'être vu, quoi.
Donc, j'ai bien compris, il faut lire Don Quichotte et aller voir ou revoir.
Ça prend un peu de temps, mais si on est cinéphile...
Un sandwich de lecture entre deux visions du film.
Voilà. Bon, ben, je crois que ça va faire un peu notre petite pause musicale. Donc nous continuons avec notre dernier film, Trois visages, qui a enthousiasmé la critique et le public à Cannes. Mais malheureusement pour lui, Jafar Panahi n'a pas pu entendre les applaudissements, car il n'a pas le droit de sortir d'Iran. Né en 1960, il est un des réalisateurs les plus reconnus de la nouvelle vague iranienne. Son premier long métrage, Le Ballon Blanc, est récompensé à Cannes par la Caméra d'Or en 1995. Mais dès 2000, il commence à avoir des ennuis avec le gouvernement iranien, qui interdit successivement ses deux films Le Cercle, qui a pourtant eu le Lion d'Or à Venise en 2000, et Sang et Or, prix du jury Un Certain Regard à Cannes en 2003. Tous les deux étant jugés par le gouvernement comme trop critiques sur la situation en Iran. Il est même arrêté en 2010 et retenu en prison pendant le Festival de Cannes, où il était invité à faire partie du jury. Ensuite, il est relâché, puis condamné à 6 ans de prison, condamnation transformée en assignation à résidence et interdiction de travailler. Alors là où c'est très subtil, je ne connais pas vraiment la société iranienne, mais enfin, il a l'interdiction de travailler et malgré cela, il réussit à réaliser des films, certes minimalistes, mais qui sont de petits chefs-d'œuvre et qui sont sélectionnés et récompensés dans les grands festivals et distribués à l'étranger. Ça a été le cas de Ceci n'est pas un film en 2011, qui est sorti à Cannes, de Pardé en 2013... et surtout de Taxi Téhéran, qui a eu l'Ours d'Or à Berlin en 2015. Alors Yves, je crois que tu as beaucoup aimé Trois visages. Est-il aussi inventif que Taxi Téhéran ?
Oui, en fait, chaque film de Jafar Panahi est tout à fait une heureuse surprise, enfin, je trouve, d'autant qu'on se dit que finalement, sa situation est tout à fait, l'amène à une forte créativité. Heureuse surprise, et pourtant... Quand le film commence de façon tout à fait dramatique avec cette vidéo filmée au téléphone portable où on voit une jeune fille implorer de façon très, très dramatique justement, implorer une actrice parce que sa famille l'empêche d'aller étudier au conservatoire de théâtre et on la voit mettre en scène son suicide. Et la scène qui suit est tout aussi, j'allais dire, noire, presque. D'ailleurs, elle est nocturne. Elle se passe dans l'habitacle d'une voiture. Hein. Une voiture où on trouve justement une actrice célèbre, Jafar Panahi, qui joue donc son propre rôle et qui est la destinataire de la fameuse vidéo, et le réalisateur Jafar Panahi, tous les deux en route pour le village de la fameuse jeune fille qui se nomme Marzier, d'ailleurs. Mais là, déjà, on a une petite faille. On voit, l'actrice Benaj Jafari tout à fait perturbée par la vidéo, on le serait à moins, mais qui s'interroge quand même sur sa véracité. Et alors là, je trouve qu'on assiste à une discussion, à un échange un peu décalé entre le réalisateur et son actrice, un dialogue qui porte sur la qualité du montage de la fameuse vidéo et qui ne manque pas de sous-entendus pour le spectateur un peu attentif. Voilà. Bon, après, le film s'ouvre en plein jour et là, on est embarqué sur les chemins sinueux d'un Iran rural, tout à fait rural. On pense d'ailleurs à certains films de Kiarostami, dont Panahi fut un des assistants. On est plus précisément dans la région Azri, au nord-ouest, je crois, de l'Iran. Et donc, nos deux personnages, l'actrice et le réalisateur, partent à la recherche de l'actrice, ou du moins de son village, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et ils vont traverser un certain nombre de villages et aller à la rencontre des habitants. Et je trouve que là, le film est fait d'une suite de scènes assez savoureuses.
Où l'on retrouve tout l'humour de Panahi.
Oui, tout à fait. Je trouve que... Alors, c'est un humour assez subtil, assez distancié, bienveillant, même pas à charge sur les personnages, mais...
Bienveillant.
Bienveillant. Oui,
absolument.
Bienveillant.
Oui, c'est vrai.
Qui n'est pas à charge, mais qui est tout à fait lucide. Alors, bon, on ne va pas citer toutes les scènes de rencontres. Il y en a quelques-unes... très franche, très nette, ce qui porte sur la virilité, l'histoire du prépuce.
Ah oui, il y a quelques scènes très très drôles, finalement.
Très très drôles.
Mais c'est aussi un film sur la liberté.
Oui, enfin, je veux juste dire quand même qu'il souligne bien les contradictions des gens.
Oui. Hein.
Tous ces gens qui ne veulent pas que la fille du village devienne actrice sont quand même contents de recevoir...
Ah, la grande actrice.
La grande actrice, ils lui demandent même la suite de la série. Voilà. Alors, c'est, oui, comme tu dis, Jacques, c'est surtout, pour moi, c'est surtout un film sur la liberté, hein, la liberté de création. Et, curieusement, cette liberté est incarnée par trois femmes et trois actrices qu'on traite vulgairement de saltimbanques, qu'on méprise légèrement. Et alors, je parlerai surtout de la troisième qu'on voit très très peu, qu'on voit de très loin, la fameuse Shahrzad, qui est une ancienne star d'avant la révolution islamique, hein, et qui aujourd'hui est mise au banc de la société et dont les seules armes pour exister sont la peinture et la poésie. Et il y a effectivement une très très belle scène où on voit de très loin, on est à la place du réalisateur qui est près de sa voiture, et on aperçoit très loin une maison, loin du village, où sont réunies les trois actrices. Et à travers le voile de la vitre, on les voit danser.
Ouais.
Et je pense que ça, c'est vraiment la scène clé.
C'est une très belle scène.
Oui.
Très belle scène, mais très subtile. Et il ne faut pas la manquer parce que ça, on peut passer à côté quand on n'est pas très attentif.
Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu tout ce côté minimaliste, en fait, de Panahi, enfin, sur ses derniers films, en tout cas, où il fait une dramaturgie avec des petits riens, quoi.
Effectivement, comme tu dis, Jean-Pierre, il faut être très attentif, mais pendant tout le film. Tout le film demande une attention. Mais c'est une attention tellement pleine de...
Mais qui rend le film jubilatoire.
Jubilatoire, voilà.
Voilà. Jean-Michel, donc tu es jubilatoire. Dominique, aussi.
Oui, moi aussi. J'ai trouvé que la description de ce village, avec tellement de tendresse, d'humour, et en même temps, comme tu dis, en soulignant bien les positions de chacun et les contradictions de chacun, j'ai trouvé ça très très beau. J'ai trouvé très beau aussi cette route qui part ou qui rentre au village. voyage, enfin, qui est à la fois un enfermement et le départ vers la liberté. La fin, c'est vraiment la liberté, quoi. Mmh. C'est ça.
Avec un petit bémol, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière image, c'est l'arrivée des camions avec les,
oui, avec les
vaches qui n'attendent que ce fameux taureau aux testicules en or. Voilà, quoi. Oui. Je trouve que c'est cette pointe d'humour.
Oui.
Tempère toujours un peu, et le tragique, mais aussi l'espoir. Enfin, voilà,
Jean-Michel, j'ai compris que tu étais aussi enthousiaste.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a tellement de choses. Que, là aussi, c'est un film qu'il faut revoir,
oui.
Parce qu'on ne peut pas prétendre vraiment, malgré l'attention qu'on a, avoir profité de tout. L'ombre d'Abbas Kiarostami, comme tu l'as dit, plane sur un film d'un de ses successeurs les plus brillants. Alors, ce qui est intéressant et qui n'est pas présenté de façon scolaire et prêcheuse, c'est l'analyse, c'est même pas une analyse, mais l'approche de la condition féminine en Iran.
Tout à fait.
Et ça, justement, c'est pas présenté comme par un professeur, mais on voit toutes les contradictions, toutes les difficultés, et ne serait-ce que la séquence initiale qui commence par mettre en doute la manipulation qu'exerce peut-être cette lycéenne qui fait appel à la grande actrice. Et avec la perspective qu'on aura ensuite avec le troisième visage, qui est celui de cette actrice de l'ancien temps et qui est mise au purgatoire. Alors, c'est à la fois le rapport aussi entre la fiction et le documentaire, parce qu'il y a beaucoup d'idées documentaires là-dedans, mais qui sont transcendées par une fiction dont la mise en scène se regarde, puisque c'est une mise en scène qui est combinée par un réalisateur et une actrice. Donc, il y a aussi de l'abîme là-dedans.
Il y a de l'abîme, et moi, je trouve que ces derniers films de Panaïs sont un cours de cinéma magistral. Parce qu'au fond, comment faire un cinéma de fiction, comment prendre le spectateur pendant une heure et demie ou deux heures avec rien, ou avec presque rien.
Presque rien.
Presque rien, c'est-à-dire que le scénario s'écrit en deux lignes, hein, quasiment. Mmh. Il y a très peu d'acteurs professionnels, etc. Et on a une certaine magie du cinéma.
Oui.
Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est par rapport à l'évolution de ces derniers films. Ceci n'est pas un film, était un enfermement total. Si mes souvenirs sont bons, c'est la seule sortie de l'appartement, c'était pour aller vider sa poubelle, quoi. Donc, déjà dans Taxi Téhéran, on respirait un peu plus.
Oui, on sortait.
Et là, on sortait. Et là, on est vraiment dans la campagne. Donc, même s'il reste un enfermement social, il reste quand même. On respire beaucoup plus. Et d'ailleurs, politiquement, il s'attaque moins, d'ailleurs, véritablement au régime, plutôt qu'à une certaine arrière traditionnelle, disons,
à la conséquence des oukases du régime.
Peut-être, mais pas uniquement.
Oui,
c'est
pas
peut-être
uniquement.
Aussi des villages un peu isolés. Bon, c'est un film qui est passionnant.
Passionnant, oui, tout à fait. Mais là, justement, on voit bien, effectivement, peut-être à la différence, pour boucler la boucle, à la différence du film de Brisé, là, effectivement, la fiction transcende.
La fiction transcende
la réalité.
Oui,
et ouvre d'autres perspectives.
Oui, ça c'est vrai.
Voilà.
Eh bien, voilà, là nous avons consensus sur ce film.
C'est un grand bonheur de voir ce film,
ne le manquez pas.
Absolument.
Eh bien, nous allons passer au coup de cœur. Donc, Jean-Michel, tu voulais nous parler de 3 jours à Quiberon.
Oui, alors, bon, moi, je suis un vieux pratiquant de Quiberon depuis 40 ans, et ce film m'a intéressé pour cela. Bien sûr, pas uniquement pour ça, parce que c'est comme l'intérêt vient quand même de voir Romy Schneider. Elle est représentée par une actrice qui est un véritable sosie, et c'est ça qui est fascinant. Dans ce film, la réalisatrice Émilie Attef fait le récit d'un entretien donné par Romy Schneider en 81, un an avant sa mort, lors d'une cure de thalassothérapie à Quiberon. Pendant son séjour, alors qu'une amie intime, Hilde, la rejoint, Romy accepte d'accorder une longue interview à un journaliste avide de sensationnalisme du magazine allemand Stern, Michael Jürgs, accompagné d'un photographe, Robert Lebecq, que Romy apprécie beaucoup. Et donc, il y a ces quatre personnages de Romy, son ami, le journaliste et le photographe. Et au fil de l'interview, entre confession intime et pose de star, l'actrice se livre dans sa vie chaotique et le somptueux noir et blanc du film offre une photographie qui sculpte les visages des comédiens, et notamment celui par moments ravagé mais encore avenant de Romy Schneider. En fait, plus que la teneur assez primaire des échanges, il faut bien l'avouer, c'est essentiellement en raison de cette troublante ressemblance de la talentueuse actrice Marie Boehmer avec son modèle que le film fascine, donnant l'impression de voir Romy ressuscitée. La caméra très mobile essaye de traquer la moindre altération dans l'humeur de cette héroïne contradictoire, tour à tour abattue et fragile ou impérieuse et excessive, qui peut rappeler une femme sous influence de Cassavetes.
Ah, belle référence. Dominique, tu veux nous parler d'Une année polaire?
Alors oui, c'est mon coup de cœur. Une année polaire, c'est un film qui raconte l'histoire vraie, jouée par ceux qui la vivent, de l'installation d'Anders, un grand gaillard blond de 25 ans, nouvel instituteur du village de Tinitekilaak, chez les Inuits, au Groenland, province ou colonie danoise, le film nous le montre. Et au départ, il ne connaît rien au Groenland. Alors c'est un film absolument magnifique, car ce village aux maisons colorées situé au bord de la banquise est au milieu d'un paysage blanc dont on découvre les variations tout au long de l'année. La nuit hivernale, les épaisses couches de glace, les couchers de soleil, les tempêtes de blizzard, les aurores boréales, les icebergs. C'est absolument magnifique et très bien filmé avec des drones, des panoramiques. Enfin, c'est très très beau. Et c'est un film très touchant, sans aucune sensiblerie, dont le sujet est l'avenir de cette petite communauté inuite et l'éducation de ses enfants. Car des choix sont nécessaires entre le savoir de l'école et le savoir des grands-parents inuits. On ne devient pas un chasseur d'ours blancs ou de narval si on part faire ses études à la ville voisine. Et la force de ce film est de nous sensibiliser à travers les choses simples de la vie. On suit l'instituteur chahuté par ses élèves qui parlent à peine le danois dans ses efforts pour les préparer à leurs études. Et on vit avec un couple de grands-parents et leur petit-fils de 11 ans, Acer. Alors avec eux, on chante en inuit. On mange du phoque avec les mains rouges de sang. On confectionne des harnais pour les chiens de traîneau. On part en kayak au milieu des icebergs bleutés. Bref, nous comprenons tout ce que ses grands-parents veulent transmettre à leurs petits-fils. Pendant ce temps, l'instituteur s'intègre à la communauté, conscient que tous les enfants n'ont pas les mêmes rêves et qu'il a beaucoup à apprendre de cette communauté en abandonnant ses préjugés de conquérant danois. Bref, un très très beau film sur la transmission, le partage, il faut vraiment aller le voir.
Et qui là encore est un peu à la limite entre le documentaire et la fiction, c'est intéressant.
Oui, oui, c'est sa façon de travailler. Hein, c'est sa façon de travailler.
Yves, tu veux nous parler de Senses?
Oui, Senses, un film japonais d'un inconnu, me semble-t-il, en tout cas en France, Ryusuke Hamaguchi. Alors, c'est un film de 5 heures, mais enfin partagé en 5 épisodes.
Ne décourage pas nos auditeurs.
Non, 5 épisodes, mais qui est souvent passé en 3 séances. Donc, ce qui fait des... Et je peux vous dire que quand on a vu une séance, on est pressé de voir les deux autres. Je vous le dis tout de suite, c'est un vrai joyau. Ce film est un petit bijou. Alors, je ne vais pas le résumer parce que ça serait trop long, trop difficile.
Mais de quoi ça cause?
Alors, ça nous parle de quatre amis, quatre femmes japonaises à l'approche de la quarantaine et que nous allons suivre, cheminer avec elles pendant 5 heures. Alors, c'est beaucoup fait de conversations entre elles, y compris aussi avec leur conjoint. Et puis, il y aura quand même un petit fait marquant qui va faire basculer le film, d'ailleurs, qui est l'une d'elles disparaît tout d'un coup sans prévenir qui que ce soit. Ce qui va jeter un trouble chez les autres et dévoiler un peu leurs affects, leurs frustrations, essentiellement conjugales d'ailleurs. Et cela va même jusqu'à perturber leur amitié. Voilà. Et, bon, je dis que c'est trop difficile à résumer.
Mais cette longueur, c'est un peu une série, ressemble à une série.
Je pense. Moi, j'ai pas vu, donc je peux pas comparer à d'autres séries. Je suis pas un habitué des séries, mais je dirais qu'il y a un art c'est un art de filmer du réalisateur qui est absolument extraordinaire. C'est tout en fluidité, lente, sans brusquerie, avec des changements d'axe à peine perceptibles, et on est sans cesse centré sur ces quatre amis, sur leur corps, et surtout sur leur visage, dont on perçoit, le moindre tressaillement, et je dirais ce qu'il y a en dessous, ce qu'elles disent. Il y a ce qu'elles disent, mais on perçoit très bien tout ce qui est caché ou à peine voilé. Et vraiment, on les suit. Et je peux vous dire que quand ça s'arrête, on est un peu frustré. On aimerait continuer parce qu'on se demande quel va être leur avenir, dont elles disent d'ailleurs qu'il est, il est un peu bouché dans leur première scène.
Scène de la vie conjugale japonaise ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas cette violence.
Il faut aller voir.
Il faut absolument aller voir. Et je peux vous dire... On est totalement pris. Enfin, totalement pris. Et on se dit, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le prochain film du réalisateur Asako, qui, je crois, était en compétition à Cannes. Voilà.
Alors, avec ce film exotique, nous allons... Moi, je voudrais vous parler du dernier film, en fait, des frères Taviani, Una questione privata. Dernier au sens fort du terme, puisque Vittorio, l'aîné, est décédé en avril à l'âge de 88 ans. Il n'y aura donc plus d'œuvres réalisées par deux frères qui nous avaient... tant ému avec des films comme Padre Padrone ou La nuit de San Lorenzo ou plus récemment César doit mourir. L'histoire, donc, là aussi, on retrouve la période qu'ils avaient évoquée dans La nuit de San Lorenzo, puisque l'histoire se situe en 1944. Milton est un jeune partisan qui a pris le maquis depuis quelques mois et qui cherche à sauver son ami Giorgio, capturé par les fascistes. Alors... c'est à la fois par amitié, mais aussi pour savoir la vérité sur les relations de Giorgio avec la belle Fulvia, qu'il a lui-même aimée. Donc. Et alors, évidemment, pour ce dernier film des frères Taviani, on voudrait être complètement enthousiaste. Ce n'est pas totalement le cas, parce que la partie justement sentimentale de l'histoire, cette questione privata dans la grande histoire, un peu remake de Jules et Jim, n'est pas très originale et est traitée de manière assez banale par des flashbacks un peu répétitifs. Par contre, alors c'est vraiment pour ça qu'il faut voir le film, l'évocation de la guerre des partisans est passionnante. Dans des montagnes où les nappes de brouillard vont et viennent, un peu à l'image de cette guerre de maquis, ces jeunes hommes qui, pour la plupart, menaient quelques mois plus tôt une existence insouciante, se retrouvent à risquer leur vie. Alors leur manière de faire la guerre peut sembler légère, presque parfois une joyeuse colonie de vacances, pas très disciplinée, mais malheureusement quelques scènes nous rappellent que la mort est souvent au bout de l'aventure, et que les fascistes, en réaction, massacrent sans pitié. Je pense que ce film est important pour deux raisons, parce que d'abord, c'est sans doute un des derniers films sur la guerre de 39-45, réalisé par des cinéastes qui, sans faire la guerre eux-mêmes, mais ont vécu cette période. Et donc, leur témoignage est précieux. Et ensuite, les frères Taviani ont présenté ce film comme une alerte contre la montée de l'extrême droite en Italie, un peu comme leur volonté de rappeler à quoi cela a conduit dans les années 40. Et de point de vue, ce film est fort. Donc, un film important, donc, malgré peut-être quelques réserves sur la partie un peu sentimentale du film. Eh bien, je crois qu'est venu le temps de rendre l'antenne. Merci à Dominique, Yves et Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui nous disons à bientôt.